des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Les limites de notre cerveau seraient-elles les limites du nombre pi, c'est-à-dire infini, et en tout cas capable de concevoir l'infini ? Avec les émotions et la gestion qu'en fait notre cerveau, l'être humain apparaît dans toute sa complexité. Les émotions, nouvelle série que nous vous proposons avec le docteur Dominique Demichel, en nous appuyant sur la revue Archipel, revue animée par l'association Jalmav, jusqu'à la mort accompagner la vie.
Il y a les émotions du moment et il y a aussi cette histoire du passé. Et c'est même bien plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi des idées et même des émotions qui sont liées à notre futur. Par exemple, quand vous pensiez à votre plan pour cet été, peut-être que vous êtes en train de penser en voyage quelque part et que vous pouvez expérimenter en une grande joie avec l'idée d'aller en un certain pas dans le futur. Alors, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on peut dire qu'on a aussi une mémoire du futur. Et alors, c'est tellement riche. Et ça, c'est quelque chose que c'est bien humain parce que même dans les animaux les plus complexes, très proches de moi, comme les chimpanzés, par exemple, c'est très difficile à penser qu'il y a beaucoup de cette émotion projectée et mémoire projetée dans le futur. Il y a beaucoup de mémoire du passé, mais pas du futur. Et ça, c'est vraiment très beau et très humain. Cette possibilité de regarder le passé, regarder le futur en forme de plan, avoir des émotions dans tous les deux cas, avoir du langage pour décrire tout ça. Alors c'est quelque chose de très merveilleux et qui est en même temps une des grandes bases de notre gloire humaine, on peut dire, mais aussi la grande base du drame humain. Parce que si on n'était pas tellement conscient de notre passé et aussi tellement conscient du futur que nous voulons avoir, alors il n'y aura pas de drame. Nous pourrions être malades ou mourir et on n'aura pas de grande tristesse.
Notre mémoire du futur. On ne pouvait imaginer plus belle expression pour illustrer la complexité de notre cerveau. Et c'est Antonio Damasio que vous avez pu entendre et qui participait ici à une conversation organisée par le pôle universitaire de Lyon. Conversation portant évidemment sur le cerveau, les émotions et le comportement. Docteur Dominique Demichel, vous aviez envie de réagir sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, je vais pas faire trop de commentaires sur ce que dit Monsieur Damasio parce que je suis pas du tout à la hauteur de ses compétences. Juste pour introduire une petite nuance cependant, pour dire que ce qu'il appelle la mémoire du futur, c'est quand même une mémoire qui se fait en référence au passé. Parce que le futur, dans une sorte de réalité, il n'a aucun contenu. Hein, donc c'est quelque chose qui est vide. Vous voyez, par exemple, là, dans quelques mois, là, je vais faire un voyage au Pérou et donc je vais aller au Machu Picchu. Donc, quand je réfléchis à l'idée du Machu Picchu, j'ai en effet une vraie émotion parce que ça fait très longtemps, j'ai envie d'aller au Machu Picchu et je suis très content dans ma vie de pouvoir me dire que j'y suis allé. Mais ça n'est pas vraiment une émotion qui est liée au futur. C'est lié à une émotion qui est liée en fait à mon passé, c'est-à-dire aux lectures que j'en ai eues, à ce que j'ai pu projeter sur ce lieu, à l'imaginaire qui m'a nourri, qui m'a construit. Voilà, et j'aurais eu une autre histoire, peut-être que j'en aurais eu absolument strictement rien à faire du Machu Picchu. Donc en fait, si j'ai du plaisir, et si un moment où je suis un peu fatigué, et puis j'en ai un petit peu marre de travailler, j'ai envie de me faire une petite page de publicité, et que du coup je ressens une émotion en pensant au Machu Picchu, c'est quand même essentiellement en lien à mon histoire, donc avec mon passé. Donc à partir de mon passé, j'ai une émotion en projetant quelque chose sur le futur.
Il ne reste pas moins que la complexité du cerveau, nous avons commencé à l'évoquer il y a 15 jours, avec les lieux dans le cerveau, les différentes zones du cerveau et les lieux qui, où l'émotion devient palpable, on pourrait dire.
Voilà, alors on a surtout parlé de l'amygdale et j'ai bien envie que vous, là, les auditeurs, vous reteniez ce petit lieu amygdale, la petite amande. Ce ne sont pas les deux amygdales qu'on a au fond de la gorge qui sont des lieux de défense immunitaire. C'est un tout petit organe, on en a un à gauche, un à droite dans le cerveau. Et on pourrait dire que c'est l'organe qui gère nos émotions. C'est celle qui les stocke et elle est en relation avec une autre petite structure qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, on pourrait dire, c'est l'espèce de noyau central qui gère un tout petit peu toute notre mémoire. Cette mémoire étant stockée dans la globalité du cerveau tel qu'on le croit, en tout cas actuellement, en 2017. Donc cette amygdale gère les émotions, et sans essentiellement les émotions de peur. Et à chaque fois que j'ai peur, c'est mon amygdale qui s'active et qui envoie des signaux de peur à mon cerveau. L'enfant qui a du mal à s'endormir, c'est l'enfant qui n'arrive pas à apaiser son amygdale. Hein ?
Alors, nous en étions à aborder cette grande zone du cerveau, le cortex préfrontal.
Voilà, alors la deuxième structure qui est très importante et qui en quelque sorte s'oppose à l'amygdale, c'est le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, pour faire simple, en gros, il est derrière notre front. Hein, et il gère les émotions. Toutes les émotions qui arrivent de notre corps transitent, sauf l'odorat, transite par une structure qui est à la base de notre cerveau, derrière, qui s'appelle le thalamus. C'est le filtre initial de nos émotions. Puis ensuite, ça passe par le cervelet, puisque j'ai appelé le système limbique, c'est-à-dire on va retenir essentiellement l'amygdale. Voilà, tout arrive là-dedans. Et ensuite, c'est projeté dans un lieu qui s'appelle le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, il n'a pas d'activité directe sur notre motricité, sur notre langage, sur nos perceptions, sur... voilà, il a une fonction de régulation. Alors, il y a plusieurs parties, nos auditeurs ne vont pas retenir tout ça, d'ailleurs, moi, heureusement que j'ai mes petites antisèches pour suivre là, parce que c'est quand même très compliqué, mais c'est juste, je vais essayer d'écrire un tout petit peu ces différentes parties-là, pour montrer en gros qu'on commence quand même un petit peu à comprendre comment ça se passe. Alors, quelles sont les différentes parties ? On pourrait commencer par le cortex préfrontal dorsolatéral. Hein, c'est une partie de ce cortex préfrontal, donc je le rappelle, on en a un à gauche, un à droite, qui est situé juste derrière notre front. Et au fond, ce cortex préfrontal dorsolatéral, il élabore les processus cognitifs, donc de connaissances, les plus complexes. Et il a un rôle de contrôleur, de planificateur, en particulier de nos choix. Hein, nous savons bien que devant une alternative entre est-ce que je vais répondre au téléphone ou est-ce que je finis de lasser mes chaussures, par exemple, eh bien, je vais faire un choix. Et ce choix, il va être décidé en fonction de ma propre histoire. Si je me dis que j'attends pas de coup de téléphone urgent, que les gens peuvent, ça peut sonner, qu'on est à la première sonnerie et que le téléphone n'est pas trop loin, c'est pas la même chose que si je sais que j'attends un coup de téléphone très important, qu'il engage mon avenir peut-être parce que c'est une réponse à un entretien d'embauche, que ça a déjà sonné deux fois et que mes lacets ils peuvent bien attendre, quand bien même je risque peut-être de me casser la figure en marchant dessus, eh ben je vais me précipiter. Ce cortex préfrontal dorsolatéral, il est donc en relation avec notre expérience, c'est-à-dire il récupère au fond tous nos souvenirs antérieurs et il va prendre une décision. Il organise, et au fond en particulier dans notre processus décisionnel, en particulier dans toute notre activité, et en particulier nos activités de travail, il est très déterminant.
Alors avançons dans l'exploration de ce cortex avec le préfrontal orbitofrontal.
Voilà, c'est ça. Donc, on est toujours dans le cortex préfrontal, donc qui est situé derrière le front ici. Mais il y en a un qui est un tout petit peu plus bas et en arrière, donc près de l'orbite, hein, près des yeux. Et il intervient, lui, dans des critères essentiellement émotionnels. Donc, il est très, très en relation avec le système limbique. Système limbique, on se rappelle, c'est essentiellement l'amygdale. Et puis aussi, le striatum est essentiellement l'amygdale. Donc, il intervient en choisissant à partir de valeurs et de motivations. Je vais donner des exemples pour comprendre. Hein. Si je suis dans une situation à occupé à faire quelque chose et que je vois un adulte qui a du mal à accomplir une tâche particulière, je vais peut-être me dire que, voilà, on va attendre un tout petit peu et je vais continuer mon activité. Si c'est un petit enfant, par exemple, qui est en danger de quelque chose, alors je vais lâcher tout de suite ma tâche et je vais aller ailleurs. Donc ici, les motivations sont déterminées par cette partie orbitofrontale. Dans cet espace-là, il y a aussi ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Alors, circuit de la récompense, c'est important parce que dans notre système décisionnel, il y a le fruit de notre expérience, mais il y a aussi le fruit du plaisir qui est important, hein, le déplaisir et le plaisir. Le déplaisir vient souvent de l'amygdale qui nous envoie des petits signaux rouges, ça clignote très très fort, attention, danger, 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 mais aussi la partie du plaisir. Donc tous nos systèmes qui nous font décider, qui nous désinhibent, qui vont nous faire passer à l'acte de manière amicale ou au contraire agressive, sont décidés, sont choisis en quelque sorte dans ce cortex préfrontal, orbitofrontal. Voilà. Comme j'ai souligné qu'il y avait une dimension émotionnelle importante, alors ce qu'on peut dire, c'est que l'essentiel des capacités, de nos capacités affectives, nos capacités émotionnelles, la régulation de nos émotions, et puis aussi toute la régulation de notre sens moral, se situe probablement là. Comme si au fond, là, il y avait quelque chose du côté de l'analyse et la perception de tout système de récompense, de plaisir, de distance, de proximité, d'acceptation. On sait par exemple que chez les enfants qui, dans leur enfance, enfin chez les adultes qui, dans leur enfance, ont vécu une relation relativement tranquille, alors, ce circuit, justement, cet équilibre entre l'amygdale qui envoie la peur et ce cortex orbitofrontal qui fait prendre des décisions sur le plan émotionnel et affectif, cette relation-là va être harmonieuse et donc les relations vont être relativement justes et adaptées. Hein. Si il y a une expérience affective très importante et que l'amygdale envoie un signal de danger, alors il va y avoir par exemple un comportement d'évitement, un comportement de fuite ou un comportement d'agressivité automatique. Hein. Quelqu'un dit à quelque chose, l'autre s'énerve et le premier dit « Non mais je te dis ça gentiment, il n'y a pas de problème, voilà, on fait comme tu veux. » Mais si l'autre réagit très très vite, c'est qu'en général, par rapport à un signal potentiel et par rapport à l'expérience, ce cortex orbitofrontal envoie un signal de danger et s'adapte.
Alors j'espère que nos auditeurs ne vont pas décrocher. Eh bien, on va parler de yaourt tout de suite pour renouer le fil de notre exploration du cerveau.
Voilà deux yaourts. Leur contenu est strictement identique. Mais d'un côté, on lit sur l'étiquette 5% de matière grasse, de l'autre, 95% de matière maigre. Il faut choisir. Les sujets prennent le yaourt à 95% de matière maigre. Leur choix a été guidé uniquement par la partie du cerveau dédiée aux émotions. Supposons maintenant que le sujet de l'expérience ait mangé hier un yaourt à la framboise, périmé depuis longtemps. Il en est tombé malade. Aujourd'hui, il doit choisir entre deux nouveaux yaourts, mais de marques différentes.
En mangeant un yaourt pourri, son système émotionnel a gardé la trace de cette expérience-là, et lorsque le choix va à nouveau se présenter, et ben le système émotionnel va avoir tendance à éviter au sujet de refaire le même choix.
Et pour dépasser cette réaction, il faut alors mettre en route, développer le système rationnel qui va réaliser qu'il ne s'agit pas du même yaourt, c'est un contexte différent. Donc il faut en quelque sorte que le système rationnel inhibe, régule le système émotionnel.
Les émotions sont partout et oui, interviennent également dans le choix de votre yaourt ce soir au dessert. C'était un extrait d'une petite vidéo proposée par universcience.tv. Docteur Dominique Desmichel, ce qui est aussi important aussi, c'est la balance entre l'émotion et la raison, hein,
Voilà,
évidemment.
c'est tout à fait une autre perspective, mais qui est en fait facile à comprendre, hein. Dans nos choix décisionnels, la dimension passionnée, dont je rappelle que l'étymologique passion, ça vient de pathos, donc de souffrance, hein. Donc la passion, c'est quand même ce qui est associé à la souffrance. est un élément tout à fait déterminé. Et puis il y en a un autre qui est la raison, hein. Et tout le monde sait bien que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, c'est-à-dire que dans nos choix relationnels, que ce soit en effet le choix d'un yaourt ou que ce soit une passion amoureuse, voilà, il y a toujours ces deux éléments.
Alors là, nous étions dans le cortex orbito-frontal, et c'est justement que là va se réguler nos désirs.
Voilà, que se régulent nos désirs. C'est aussi tout à fait sous l'influence de notre éducation, hein, parce que le cortex préfrontal contient aussi cette dimension-là. Par exemple, je suis à table, j'ai très faim, mais si je suis un enfant, j'arrive et puis je commence à prendre dans le plat, et puis au fur et à mesure, on m'a appris qu'il fallait attendre. Et donc on diffère, au fond, sa dimension pulsionnelle qui est d'aller se servir. Voilà. Alors, c'est important puisque, au fond, quand je diffère le fait de manger et que j'attends, il y a certes quelque chose qui est de l'ordre d'une inhibition, mais il faut se rappeler aussi que ça vient aussi stimuler le circuit de la récompense. Parce que dans le circuit de la récompense, il y a, si tu es poli, tu es quelqu'un de bien. Hein, voilà, donc il y a ces deux dimensions. Il y a une dimension frustration, mais dans le circuit de la récompense, il y a aussi le circuit qui fait que, voilà, on est quelqu'un de poli, on attend, on se frustre un tout petit peu, mais voilà, on va avoir le plaisir ou de bien faire, ou d'obéir à son papa, à sa maman, ou d'obéir à son surmoi, ou en tout cas d'avoir un comportement dans ce qu'on appelle maintenant, vous savez, les comportements prosociaux, ces comportements prosociaux qui sont très déterminants, puisque on dit par exemple actuellement, c'est un tout petit peu provocant, mais que la capacité chez l'enfant à développer ses comportements prosociaux est beaucoup plus déterminante que le QI quant à son niveau de vie quand il sera adulte. Hein. Vous voyez, donc cette dimension-là, de cette capacité à vivre avec les autres, est sûrement très très importante pour trouver du travail, être bien dans son travail. Ben, dans cette régulation-là, interviennent ces deux espaces, le système limbique, essentiellement l'amygdale, et le cortex préfrontal, dont le cortex orbitofrontal. Mais alors, il y en a d'autres.
Oui, vous aviez parlé du surmoi.
Oui. Alors, je sais pas trop où est le surmoi.
Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est
Oui, alors le surmoi, il faut partir de l'image. Le surmoi, c'est celui qui est sur le moi. Notre moi, c'est celui qui décide. Hein. Je décide, aujourd'hui, j'ai décidé de venir enregistrer cette émission de radio. J'aurais pu me dire, aujourd'hui, il fait très très beau, il fait très doux, malgré qu'on soit encore en hiver. J'aurais pu aller m'étendre sur la pelouse, voilà. J'ai décidé en fonction de critères qui sont des critères émotionnels avec le circuit de la récompense. Je suis content de venir ici, de discuter avec vous, voilà. Mais de temps en temps, ce sont des critères qui sont des critères essentiellement éducatifs. Ça se représente au fond, on pourrait dire, par un petit personnage qui a califourchon sur nos épaules. Donc il est sur moi, hein, vous voyez, le sur moi, c'est celui qui est sur moi, à califourchon, sur nos épaules, un petit peu plus petit, il a une petite baguette dans la main, et puis de temps en temps, il nous tape sur la tête, faut pas faire ça, ça t'as pas le droit, ou tu dois faire ceci, ou ça c'est plus important. Ce sur moi est important dans le critère, il est hérité essentiellement des paroles parentales ou tout le système éducatif, et il est relié, par exemple, au sentiment de culpabilité. Hein.
Alors, poursuivons.
Mais je ne sais pas très bien où est situé.
Où il est situé. Oui, voilà, il n'est pas vraiment sur mon épaule.
Non, en tout cas, dans le cerveau, je ne sais pas très bien où il est. Hein.
Alors, poursuivons notre exploration du cerveau. Alors, on en arrive à cette partie du cortex singulaire antérieur.
Voilà, le cortex singulaire antérieur est un tout petit peu plus... il est en arrière. Hein. Vous avez le cortex préfrontal qui est juste là, que les auditeurs regardent bien, où je montre avec mes deux doigts. Donc, juste derrière le front, là, ici, au-dessus des yeux. Et puis, derrière, il y a une sorte de forme qui est un tout petit peu allongée, qui s'appelle le cortex singulaire, qui a une forme en courbe, antérieure parce qu'il est situé devant. Et là, il est essentiellement impliqué dans l'autogénération des comportements, en particulier de tout ce qui est fonction autonome, hiérarchisation des informations reçues, intention des actions, inhibition, traitement aussi des conflits, des erreurs, et aussi tout ce qui va initier la récompense. Hein. C'est-à-dire, si potentiellement il y a quelque chose qui est activé dans le circuit du plaisir, alors il va envoyer des informations qui vont un peu pousser à l'action. Et on sait bien que, en particulier, on utilise ça Même sur Chartres, on a essayé de commencer au sein de l'unité d'évaluation et de traitement de la douleur, de l'utiliser dans certaines circonstances, puis en fait c'était trop compliqué en termes de personnes et en termes de matériel. Mais on peut utiliser ce qu'on appelle la résonance magnétique transcrânienne, il y a un appareil dans le département, et ça permet justement d'ajuster par un mécanisme probablement physico-chimique ou magnétique, mais aussi par une élaboration comportementale et aussi par un travail de conscience et aussi par un travail donc d'élaboration, une sorte de régulation.
C'est ce qu'on appelle l'hypnose ?
Alors non, l'hypnose c'est autre chose. L'hypnose c'est quelque chose de très simple, souvent on pense que...
Mais l'hypnose agit sur cette partie-là, voilà, a priori,
voilà,
du cerveau.
Exactement, l'hypnose agit sur, il semble-t-il en tout cas, sur ce cortex singulaire antérieur. Et l'hypnose, ça n'est jamais qu'un état modifié de conscience. C'est-à-dire, en fait, c'est un état de relaxation un tout petit peu avancé. Hein? Voilà. Et donc, dans cet état de relaxation, au fond, on peut laisser émerger plus le travail de ce cortex singulaire antérieur. Et par un biais d'élaboration de parole et par le biais de la relation avec l'hypnotiseur, il y a quelque chose qui peut, en particulier, se pacifier lorsqu'il y a certains comportements d'agressivité, par exemple, ou au contraire d'inhibition, qui sont très stimulés par ce cortex singulaire antérieur. Mais il faut le penser pas comme on met une petite électrode, on stimule, et puis d'un seul coup, les agressifs deviennent doux comme des agneaux. Non, ça n'existe pas, en tout cas pour l'instant.
Alors poursuivons avec encore un autre secteur du cortex frontal, le ventromédian.
Voilà, je ne vais pas redéployer exactement où est ce cortex-là, ce n'est pas extrêmement important. Mais ce cortex ventromédian, donc il est un petit peu plus en bas, un petit peu plus au milieu, en bas parce que c'est le ventre en fait, donc le ventre du cerveau. Et il est, il est important ce circuit parce que, enfin cet espace-là, parce qu'il contient un circuit que tout le monde connaît bien, ben, plus ou moins en tout cas, qui s'appelle le circuit de la récompense. Donc, et qui est en relation aussi avec le système limbique, en particulier l'hippocampe. Le cortex frontal ventromédian, il est situé juste au-dessus des yeux et en fait, il code en quelque sorte nos jugements de valeur et la confiance que nous leur portons. Il s'agit au fond d'un espèce de codage constant, automatique et qui porte sur tous les objets, toutes les situations, toutes les personnes que nous croisons, même si nous sommes occupés à autre chose. Ça veut dire quoi dans la pratique ? Ça veut dire que vous, là, tel que vous êtes en permanence en train de scanner tout votre entourage avec vos yeux, mais avec vos oreilles, avec vos perceptions. Et si, par exemple, vous avez, il y a une odeur de brûlé qui arrive, eh bien, vous risquez de perdre le fil de la conversation avec moi, essayer de vous dire qu'est-ce qui se passe, peut-être me faire un petit signe pour dire qu'on arrête l'émission et qu'on va voir, voilà. Même chose, si par exemple, il y a quelqu'un qui frappe à la porte ou s'il y a d'un seul coup, je ne sais pas, un éléphant rose qui sort par le conduit d'aération, vous allez faire quelque chose. Et ça, vous n'avez pas besoin de le voir, il y a ce système-là qui marche en permanence, donc qui scanne tout l'entourage en permanence et qui va réguler, c'est-à-dire ça n'est absolument pas important. Ou par exemple, vous allez entendre un petit bruit, vous allez l'identifier et ça va durer 500 millisecondes, et au bout de 500 millisecondes, ce bruit, il est identifié, considéré comme pas dangereux, et hop, on le met sur le côté. Ou au contraire, un signal est perçu comme utile, précieux, hostile, avantageux, intéressant, porteur de plaisir. Voilà, donc, dans tout ça, on saisit une opportunité, on en fait quelque chose. Voilà, les enfants, par exemple, qui sont attentifs à avoir un plaisir, en particulier un plaisir immédiat. Voilà, quand il y a une stimulation de ce type-là, hop, ça fonctionne très très bien. Nous, comme adultes, voilà, si on voit un gros gâteau à côté, on va avoir une régulation qui fait qu'on va peut-être le laisser tomber et puis se dire, on reverra ça un petit peu plus tard. Donc, vous sentez bien que ce cortex ventromédian, il est très utile et que dans l'histoire de l'humanité, il a été très important parce que ça permettait, quand on était dans la savane par exemple, d'entendre un petit bruit et de se dire « ça c'est un lion qui approche » ou ça c'est une hyène, ou ça, tiens, je sens dans l'atmosphère qu'il y a l'orage qui arrive, donc il faut, je sais pas, que je monte dans un arbre, que je retourne dans la grotte, que je m'abrite, que je rentre plus vite. Voilà, donc ce système-là a été très utile au cours de l'évolution, et il garde une prégnance très 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 importante à l'intérieur de nous-mêmes, de manière consciente, mais aussi de manière subliminaire, puisque une grande quantité là, d'informations, on la traite de manière automatique, ce cerveau le fait de manière automatique, et ce n'est que quand il a une importance particulière, par exemple, ça sent un petit peu le brûlé, mais ah oui, mais là vraiment, ça sent vraiment le brûlé, on arrête l'émission, et on va voir s'il n'y a pas un danger. Hein.
Alors, docteur Dominique Demichel, il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission, nous avons fait le tour du propriétaire de manière assez rapide. Nous verrons dans une prochaine émission des exemples concrets. Est-ce que vous aimeriez, pour terminer ce tour du propriétaire, avant de conclure, quelques détails encore autour de notre cerveau ?
Ce que j'aurais envie de dire, c'est de manière plus générale, et sans revenir trop à la neurophysiologie ou la neuroanatomie, c'est quand même que notre cerveau il traite trois grandes questions. La première, c'est j'essaye de comprendre ce qui se passe. La deuxième, c'est j'essaye de comprendre ce que ça fait comme émotion à l'intérieur de moi. Et la troisième, c'est j'essaye de comprendre ce que je décide de faire. Vous voyez, hein ? Donc, il y a d'abord afflux d'informations, traitement de l'information avec référence à notre histoire, et ensuite, processus décisionnel. Il y en a qui sont entièrement automatiques. Hein. Par exemple, si quelqu'un frappe à la porte tout de suite, je vais peut-être arrêter de parler, et en fait, je ne vais pas le décider. Voilà. Sauf si je me dis, par exemple, tiens, si on frappe à la porte, peut-être ça ne s'entend pas dans le micro, parce que je suis suffisamment près du micro. Donc, je suis attentif. Si on frappe à la porte, je ne tiens pas compte de ça et je continue l'émission parce que sinon, ça nécessiterait de revenir en arrière. Vous voyez, tous ces systèmes-là sont extrêmement fins, extrêmement subtils. Une grande partie est automatique, puis il y en a une partie qu'on décide.
Ainsi s'achève notre émission. Un grand merci au docteur Dominique Demichel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours dans un nouveau numéro des mots pour le dire. Thank you.